Bonjour, dans cette séquence, nous parlerons de l'économie et des services. Je commencerai par poser une définition de la notion de service, et ensuite je distinguerai deux grandes façons de parler ensemble de l'économie et des services. Dans un premier temps, le secteur des services et son poids dans l'économie, et dans un deuxième temps, ce qu'on appelle en anglais la service economy ou l'économie de la fonctionnalité. Alors, qu'est-ce qu'un service? La grande classification qu'on utilise depuis 1945, depuis Colin Clark, c'est cette classification ternaire qui distingue le secteur primaire, l'exploitation directe des ressources, le secteur secondaire, la transformation de ces ressources en biens transportables, et le secteur tertiaire qui désigne tout le reste, qui est donc une catégorie résiduelle qui comprend tous les services. Alors, ces trois catégories sont utilisés de façon classique pour étudier l'évolution à un niveau macroéconomique des pays. Donc sur ce graphique, par exemple, on peut voir plusieurs pays européens et l'évolution de l'emploi au cours du temps entre 1880 et 2000. Si on s'intéresse à la France en 1880, on peut voir que l'emploi est réparti entre ces trois secteurs à 40% dans l'agriculture, à environ 27% dans l'industrie et environ 33% dans le tertiaire. Et donc tous ces pays, la France, la Belgique, l'Allemagne, ont une évolution à peu près similaire, qui forme une courbe. En 1880, on est dans une économie majoritairement agricole, très industrielle et encore assez peu tertiaire. Et au cours du temps, on évolue vers une économie avec 2 à 3% de l'emploi dans le secteur agricole, une vingtaine de pourcents dans le secteur de l'industrie et 75 ou plus des trois quarts de l'emploi dans le secteur tertiaire, dans le secteur des services. Donc, cette classification ternaire est encore très utilisée, mais elle a des défauts. En particulier, le problème principal est qu'il est difficile de définir très clairement ce qu'est un service. Et en fait, il n'y a pas une distinction simple, binaire, entre biens et services. Il y a plutôt ce qu'on nomme un continuum biens-services, avec d'un côté des biens purs, par exemple des chaussettes, de l'autre côté des services purs, par exemple des services de consultation juridique, et entre les deux, tout un tas de bien mélangés ou de services dépendant d'un bien support. Un exemple simple de ce type de bien mélangé ou de services dépendant d'un bien support, c'est le service de boulangerie qui à la fois transforme des matières pour produire un bien transportable, du pain, et qui en même temps produit une activité de vente qui, elle, est un service. Malgré la difficulté de définir très clairement la notion de service, on utilise cette catégorie pour analyser la localisation des services et caractériser les économies et les économies urbaines en particulier. Les services sont d'abord organisés de façon hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y a des services de bas, de moyenne gamme et de haut niveau. Et à cette hiérarchie des services correspond une hiérarchie urbaine. Et donc on peut par exemple noter qu'un service de bas niveau, comme par exemple une boulangerie, sera présent dans l'ensemble du système de peuplement, alors qu'un service de haut niveau, un service rare, comme un service de consultation juridique par exemple, sera présent uniquement dans les plus grandes villes. Ce qui caractérise aussi les services, c'est un niveau de productivité, productivité du travail et productivité du capital, très élevé. Donc, quand on s'intéresse au secteur des services et à sa localisation, on peut remarquer, comme sur cette carte, que les services de haut niveau, qui sont souvent aussi des services aux entreprises, sont localisés dans les plus grandes villes. Donc, sur cette carte, on peut voir des symboles, des cercles proportionnels à la population, et la couleur, en particulier la couleur rouge, désigne à quel point le secteur des services aux entreprises est surreprésenté dans les villes considérées, donc ici en particulier en région parisienne et lyonnaise. Alors, quand on parle du secteur des services dans l'économie et qu'on utilise cette notion pour parler des villes intelligentes ou des smart cities, on peut, et c'est ce que fait par exemple le Center of Regional Science, dresser une liste d'indicateurs, des indicateurs à la fois environnementaux, de mobilité, de qualité de vie et des indicateurs économiques pour distinguer des villes soi-disant intelligentes, d'autres qui le seraient moins. Quand on s'intéresse à cette étude du Center of Regional Science de l'Université de Vienne, on s'aperçoit que la ville, à partir d'un échantillon de villes petites et moyennes, la ville la plus intelligente, la plus smart, serait Luxembourg, qui se distingue en particulier par une smart economy. Quand on regarde le détail des indicateurs, on s'aperçoit que cette smart economy est en fait principalement liée à une surreprésentation du secteur de la finance, de l'assurance, etc., etc. Le problème de cette analyse, c'est que la localisation de ces services de haut niveau n'est en rien dépendante des politiques locales de la municipalité de Luxembourg, mais est une caractéristique plus globale, d'une autre échelle, qui tient au système de peuplement et au système des villes à l'échelle mondiale. Quand on parle de services et d'économie, il est possible d'entendre quelque chose de complètement différent, quelque chose qu'on appelle en anglais la service economy et qu'on nomme en français l'économie de la fonctionnalité. Alors ce concept est issu de l'analyse du cycle de vie des produits qui considère, donc je vais vous donner un exemple sur la production d'un bien simple qui est une bouteille en plastique. L'analyse du cycle de vie consiste à prendre l'ensemble des matières et des énergies nécessaires pour produire une bouteille, à la fois le contenant, l'étiquette, le bouchon, le transport nécessaire pour produire ce bien, jusqu'aux déchets, déchets magasins et déchets consommateurs. Et donc l'analyse du cycle de vie va produire des indicateurs de consommation d'énergie, de production de déchets, qui tient en compte l'ensemble du cycle de vie de la bouteille. Donc je vous donne un exemple de comparaison d'une bouteille en plastique et d'une bouteille en verre qui répond à la question qu'est-ce qui est le plus polluant, le plus néfaste pour l'environnement entre l'utilisation d'une bouteille en verre ou d'une bouteille en plastique. Si on regarde le graphique du haut, sur les différents indicateurs, donc par exemple un indicateur de réchauffement climatique ou bien de consommation d'eau, on s'aperçoit que la production d'une bouteille en verre est plus néfaste que la production d'une bouteille en plastique. Évidemment, ces indicateurs dépendent du nombre d'utilisations, et donc c'est ce qu'on voit dans le graphique du bas. Si on considère qu'une bouteille en verre est réutilisée, ici est réutilisée 10 fois, à ce moment-là, la relation s'inverse et il devient plus intéressant d'utiliser des bouteilles en verre que des bouteilles en plastique. Alors, en quoi cette comparaison nous intéresse? Elle nous intéresse parce qu'elle introduit un découplage très intéressant entre la propriété d'un bien et son usage. Et donc c'est ça qu'on désigne derrière ce terme d'économie de la fonctionnalité. Le fait qu'on puisse disposer de biens, qu'on puisse utiliser des biens sans en être le propriétaire. Alors cette économie de la fonctionnalité a plusieurs avantages intéressants. En premier lieu, l'optimisation de l'usage du produit ou du bien durant toute sa vie. Je vous donnerai tout à l'heure un exemple. Ensuite, une consommation économe des produits, puisque si ce sont des entreprises qui sont propriétaires des biens et qui les mettent à disposition de consommateurs qui n'en sont pas propriétaires, l'entreprise elle-même a intérêt à prendre en compte la gestion de la production et la gestion des déchets dès la conception des produits. Et enfin, c'est la limitation, voire la fin de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire le fait pour une entreprise de fabriquer des biens dont elle sait qu'ils vont rapidement se dégrader. En aménagement et en urbanisme, ce concept est très intéressant. Et donc si on l'applique à l'utilisation de la voiture, par exemple, on voit rapidement, donc ici sur des données de l'Île-de-France, qu'un grand nombre de voitures en propriété ne sont pas utilisées tous les jours. À Paris, par exemple, c'est 65% des véhicules qui ne sont pas utilisés tous les jours. Sur l'île de France, c'est 37%. Ce sont ce qu'on appelle les voitures ventouses. Et donc là, on se rend compte qu'il y a bien un problème, c'est-à-dire qu'un grand nombre de biens en propriété ne sont pas utilisés. La traduction de l'économie de la fonctionnalité dans le domaine de la mobilité urbaine s'appelle en anglais Mobility as a Service. Et donc c'est l'idée que, au lieu d'avoir un ensemble de véhicules en propriété qu'on utilise très peu, on disposerait de systèmes publics et privés de partage de voitures, de car sharing, d'un système public ou privé de partage de vélos, et pour chapeauter le tout, de systèmes de tarification intégrés qui comprendraient l'usage de l'ensemble des véhicules disponibles en tant que service et non en tant que bien en propriété. En conclusion, l'intelligence des villes ne doit pas être recherchée dans les objets, par exemple dans les véhicules, mais bien dans les usages des objets qui nous servent à accéder aux ressources urbaines. Et la deuxième conclusion importante, c'est qu'il faut examiner l'intelligence des villes à la bonne échelle. C'est-à-dire que dans l'exemple du Luxembourg, le fait que le Luxembourg dispose de certains services, par exemple de finances internationales, est une caractéristique du système de ville et non des actions propres de la municipalité. En revanche, mettre en place des systèmes de services urbains et de services de mobilité, par exemple, c'est bien une mesure qui correspond à l'échelle municipale et qui participe à l'intelligence de la ville.